Bonjour, vous êtes avec Radiohead sur Canal Sud 92.2 sur la bande FM jusqu'à 14h30 et on commençait en juin. Radiohead, émission irrégulière qui passe le mercredi dans le magazine de Canal Sud. Cette émission est animée par des enseignantes de la maternelle au lycée et on y parle d'éducation. Aujourd'hui, on va s'inscrire dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et pour ça, on fait une émission sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles à l'école où on retrouve ce qui existe ailleurs dans la société, en toute logique. Et puis on interrogera aussi le rôle de l'institution face à ou qui conforte peut-être ces violences de genre. En tout cas, ça va être une des questions qui va nous guider tout au long de cette émission. Alors on va commencer par discuter de ce qui est préconisé par... notre institution.
Par le ministère, voilà. Alors moi, je me suis intéressée à ça. Je suis allée voir sur le site du ministère. Et tout d'abord, un constat. Il y est dit que les comportements sexistes et les violences à caractère sexuel existent au sein des établissements, liés à différents facteurs, dont les stéréotypes. Que ces comportements s'exercent entre pairs, mais aussi par des adultes. Et que l'école doit permettre à l'élève de se confier et d'assurer sa protection. Il y est dit texto que personne ne doit accepter de subir ou de laisser subir à quelqu'un une forme quelconque de violence à caractère sexuel. Ça, c'est pour le constat. Donc, depuis novembre 2013, le ministère a développé une politique publique qui est structurée autour de plusieurs axes. Sensibiliser, prévenir, former et prendre en charge. C'est ce qui est dit. Alors, prendre en charge, c'est parce que la prévention est l'affaire de tous et que les élèves doivent pouvoir trouver aide et écoute auprès des adultes. Et pour ça, un numéro vert. Voilà, ce numéro vert, le 0808-807-010. Bien, ça s'arrête là. Au niveau de la sensibilisation et de la prévention, alors toujours sur le site du ministère, donc education.gouv, au volet Journée internationale contre les violences faites aux femmes, on y trouve un guide pour prévenir ces violences et agir pour l'égalité. Alors, ça se décline de la façon suivante, beaucoup d'enquêtes, des chiffres. On y parle essentiellement du harcèlement, de la violence entre jeunes. Les violences qui sont citées sont l'agression sexuelle, le mariage forcé, les mutilations, donc c'est quand même un petit peu ciblé, on va dire. La cyberviolence aussi, l'utilisation d'Internet dans le but d'harceler, de faire pression. Et on y incite les établissements à se mobiliser, toujours contre le harcèlement. Il y a notamment un prix qui s'appelle « Mobilisons-nous contre le harcèlement », un prix à décerner à des élèves. Je ne sais pas trop comment... sous quelle forme, bon. Voilà, au niveau de la formation, alors, il y a quand même des choses intéressantes, en tout cas dans la bonne intention, puisque texto, il y est dit que bien des études montrent qu'involontairement, les enseignants n'attendent pas et n'obtiennent pas des filles et des garçons les mêmes prérequis et les mêmes performances. Nombre d'enquêtes les disent insuffisamment outillées pour éviter de reproduire inconsciemment des stéréotypes qui influencent pourtant significativement la réussite des élèves. Et que donc une formation initiale et continue serait nécessaire. Mmh. Alors, au niveau formation, qu'est-ce qu'on trouve ? Au niveau de la formation initiale, donc quand les enseignants rentrent à l'ESPE, c'est-à-dire l'Institut de formation des maîtres, ils doivent avoir un module sur l'égalité. Mais également au niveau de la formation continue, eh bien, on a droit à un parcours magistère de 3 heures. Alors non, magistère, ouais. On rappelle, c'est la formation par Internet. Donc tout seul devant son écran, on va apprendre à être plus égal et à remettre en cause ses stéréotypes en 3 heures, n'est-ce pas ? Voilà, donc finalement pas grand-chose. Il y a quand même sur le site Canopée, donc qui est anciennement le CRDP, CNDP,
c'est, ça.
C'est un site de ressources, un volet justement des outils pour l'égalité entre les filles et les garçons. C'est ouvert aux enseignants, aux parents, au personnel de direction, puisque ça doit être mis dans les projets d'établissement et dans les projets d'école. Voilà, donc on y trouve, là encore, je cite, une rubrique donc, qui rappelle les textes législatifs, réglementaires. Les essentiels permet à tout un chacun de prendre connaissance des enjeux et des outils de la démarche en quelques clics. Dixit. Ouais. Voilà. Alors, je suis allée voir donc, pour la maternelle. Bon, pas grand-chose. On propose de prendre des photos, d'observer les différents moments de la journée, de regarder ce qui se passe dans les jeux de cours, de réfléchir à l'occupation des jeux dans la classe, de partir des livres qui montrent des rôles sexués, stéréotypés. Mais c'est tout. Il n'y a pas de proposition, notamment d'autres titres de livres, parce que quand même tous les livres ne fonctionnent pas selon ce schéma-là. Il y a des choses bien plus intéressantes. Et puis, pas de proposition pour aller au-delà, pour permettre de transformer ces stéréotypes, ces représentations. Donc moi, je me dis que bon, c'est pas inintéressant, mais pour quelqu'un qui ne serait pas très au fait de la question ou pas très à l'aise... au mieux, je pense que les gens ne vont rien faire. En tout cas, ils ne se sentiront pas plus outillés, comme dit le ministère, pour se rentrer dans cette démarche-là. Et bon, ils risquent peut-être même, sinon de ne pas changer les choses, au pire, de renforcer ces stéréotypes. Voilà, donc ça, c'est pour la maternelle. Après, je ne sais pas pour la suite.
Bonjour d'abord. On n'a même pas dit bonjour. On est un peu mal poli, je trouve. Et juste pour continuer justement par rapport au site Canopée, alors une des premières choses moi qui m'a interpellée quand je suis allée sur le site, c'est que partout c'est écrit le maître, alors que 85% des enseignants sont des femmes. Donc déjà l'égalité filles-garçons, effectivement, elle est loin d'être actée, et même dans les ressources qu'on nous propose. Ensuite, pour l'élémentaire, ça va pas tellement plus loin non plus. Donc on nous demande effectivement d'aller voir dans la littérature, hein, mais aussi d'aborder la question du genre, par exemple, via la grammaire. Et puis c'est compliqué, personnellement, moi je trouve que c'est compliqué d'un point de vue pédagogique à mettre en place, d'arriver à extraire ce genre de problématique par la grammaire. Parce que je pense que c'est surtout dans des situations de vie que ça se passe, d'abord et avant tout, plus que dans la grammaire.
Mais c'est-à-dire qu'il faudrait réfléchir à la place du féminin et du masculin, par exemple, dans les accords de grammaire.
Tout à fait.
C'est ça l'idée. Oui.
Pourquoi est-ce que le masculin l'emporte ?
Ah, ok.
Par exemple.
Ouais, c'est quand même pas le biais le plus facile en école primaire. Quoi.
Non, surtout que réfléchir sur du métalangage quand on a à peine le langage, là c'est un peu pour le coup mettre la charrue avant les bœufs. Enfin bon, encore que, moi à titre personnel, je vois pas, c'est très compliqué à mettre en place. Ensuite, on nous dit aussi de regarder autour des prénoms des élèves, s'il y a des prénoms mixtes, pas mixtes, ce genre de choses. On doit aussi, on peut aussi étudier le droit gagné par les femmes au fil des années, des siècles, le droit de vote, l'ouverture du compte bancaire, l'autorité parentale, ce genre de choses, le rôle des femmes dans l'histoire, et bien sûr les femmes, celles qui sont remarquables. Voilà, ça va de Jeanne d'Arc à Lucie Aubrac, en passant par Louise Michel. Donc l'éventail est très très large. Voilà, et puis bien sûr, pour finir, la reproduction et l'éducation sexuelle. Voilà. Sinon, il y a quand même... et là, pour le coup, c'est pas mal, parce que des fois, il y a des trucs pas mal aussi. Hein, on n'est pas là que pour cracher sur l'éducation nationale. Des fois, on tombe sur des choses assez intéressantes, notamment sur le site Eduscol. C'est des préconisations qui ont été écrites par Nicole Mosconi, qui est une sociologue. Et donc, c'est dans le cadre de l'égalité filles-garçons. Et elle dit que, justement, une chose qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, être attentive à la distribution de la parole au sein de la classe, rétablir les qualités de parole... Voilà. Même si on a pu constater, elle a pu constater que quand, par exemple, l'égalité de parole était faite, ou en tous les cas, il y avait des tentatives qu'elle soit vraiment réalisée, eh bien, les petits garçons viennent se plaindre, ils se trouvent délaissés. Donc ça, c'est quand même une indication forte. Elle dit qu'il faut aussi absolument réagir à tout propos sexiste, hein, mais parce que nous, en tant qu'enseignantes, on réagit, on ne laisse pas passer une injure raciste, hein, mais une injure sexiste, ça passe. Et puis aussi, y a toute une interrogation sur à quel moment les filles sont interrogées et à quel moment les garçons le sont. Et par exemple, on a pu remarquer que les filles étaient interrogées quand il s'agissait de reprendre une connaissance ou un savoir. Tandis que les garçons, eux, étaient systématiquement interrogés sur les nouveaux savoirs. C'est-à-dire que c'est eux qui apportent, en gros, les nouvelles connaissances au sein de la classe. Et les filles, elles ne sont que répétiteuses, je ne sais pas si ça se dit.
Répétitrices,
des savoirs. Voilà. Donc, c'est, voilà, pour cette sociologue-là, c'est un moyen de tenter de rétablir cette égalité filles-garçons. Mais après, effectivement, je rejoins Sarah quand elle dit ben, c'est pas en 3 heures de magistère qu'on arrivera à mettre en place ce genre de choses, quoi. Ça nécessite quand même une réflexion derrière et pour pas justement non plus avoir un espèce d'effet inverse et pervers, quoi.
Alors sinon, peut-être qu'on a une chance au niveau du lycée ou du collège, des choses peut-être plus intéressantes.
Alors au niveau du lycée, y a une préconisation, mais qui n'est pas que pour le lycée, c'est d'inscrire par exemple des projets égalité filles-garçons dans les projets d'établissement. Ça a un intérêt, par exemple, c'est quand il y a des initiatives, mais qui vont être des initiatives de quelques enseignants, elles vont être possibles et faciles à mettre en place. Voilà, nous, on avait fait, par exemple, l'an dernier, au lycée où on travaille, une action autour de l'égalité filles-garçons, avec notamment un atelier d'autodéfense pour les filles. Et ça, du coup, ça a facilement trouvé sa place. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une action générale qui est menée au niveau du lycée. Ça ne veut pas non plus dire qu'effectivement, l'égalité filles-garçons est un projet qui est porté dans tous les établissements. Non, ça reste de l'ordre de la commande institutionnelle et de l'idée générale.
Oui, ça veut dire que c'est déjà des enseignants, enseignantes même, qui sont déjà sensibilisés sur ces questions-là, qui finalement se les approprient.
Voilà, alors du coup le cadre est favorable, on va dire, hein, parce qu'il y a une injonction européenne finalement, hein. La France ne fait que répondre à une injonction européenne de travailler sur l'égalité filles-garçons. Voilà, après ce qui existe aussi, c'est des dispositifs qui encouragent les filles à aller dans les filières scientifiques, c'est-à-dire les filières les plus valorisées. Mais il n'existe pas l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il reste encore la hiérarchie des filières occupées par les garçons, à savoir les filières scientifiques qui restent, il faut les rendre attractives et possibles pour les filles, mais il n'est pas question qu'éventuellement les filières plus féminisées, hein, que ce soit sanitaire et sociale, lettres, soient encouragées pour les garçons. Hein, l'inverse, non, quoi. Donc ça vraiment, ça touche qu'à un bout de la hiérarchie filles-garçons.
Oui, par exemple, là, par rapport à ça, je pense à une exposition qu'on a fait venir au lycée il y a 2 ans sur la question des métiers, justement. Donc, c'était des panneaux avec plein de métiers et à chaque fois, une fille et un garçon qui parlaient de ce métier. Et donc, c'était sur la question de l'égalité. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. En fait, ceux qui avaient fait l'exposition, je pense, je ne me rappelle plus qui c'était, ils voulaient certainement vraiment parler d'égalité, mais tous les choix de métiers étaient des métiers majoritairement masculins où on valorisait des filles qui faisaient ces métiers. Il n'y avait aucun panneau avec un garçon qui avait fait le choix d'un métier féminin. Donc voilà, c'est dire qu'il y a encore du chemin à faire aussi, même par rapport aux gens qui réfléchissent à ces questions-là.
Il y a une question de genre à travers l'éducation affective et sexuelle, mais en fait non seulement ces heures ne sont pas utilisées chaque année et il n'y a pas forcément des interventions qui sont faites sur ce sujet pour tous les élèves de chaque classe d'âge, mais en plus c'est axé risque, quoi, prévention des risques, ce qui n'a pas grand chose à voir avec le questionnement des stéréotypes ou des rapports de domination. Voilà, c'est aussi une drôle de manière d'aborder la sexualité, soit dit en passant. Puisque c'est que sous l'angle du risque et absolument pas, par exemple, je sais pas moi,
du consentement et du plaisir.
Voilà, ouais. Bon, bref, ça c'est. Donc on est vraiment dans du balbutiement et je suis allée jeter un coup d'œil sur ce qui était proposé, parce que comme je suis prof de français, je suis allée voir ce qui est proposé en lycée en lettres. Oh là là! là là là, c'est d'une indigence incroyable, hein, parce que par exemple, ce qui est proposé, c'est de faire des textes sur la femme comme muse. On va énormément toucher aux stéréotypes si on fait ça, hein, ou sur la figure de la femme dans des écrivains qui ne sont que des hommes. Par exemple, il n'y a pas un seul texte mentionné, s'il y a George Sand, mais il n'y a pas un seul texte où éventuellement il pourrait y avoir des femmes qui sont auteurs et dont les textes sont étudiés à l'école, quoi. Non, en gros, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de femme écrivain. Bon, voilà, ça pose un peu les limites de ces préconisations où les outils sont minuscules encore et complètement balbutiants, à part éventuellement quelques enquêtes dont, que tu as mentionnées, oui, qui font un état des lieux qui peut être intéressant, mais encore faut-il que ça nous serve à quelque chose.
Le dépasser pour ne pas le resservir chaque année sur les mêmes chiffres,
voilà,
par exemple.
Voilà, exactement.
Mais du coup, voilà, on a vu un petit peu toutes les bonnes intentions, malgré tout, du ministère. Seulement, voilà, est-ce qu'on parle finalement de violence, de rapport de domination, de harcèlement, on ne sait pas trop. Peut-être qu'on pourrait commencer par définir un petit peu de quoi on parle, et notamment, voilà, qu'est-ce que c'est la violence ? Alors, qui commence ?
En fait, c'est vrai qu'en préparant l'émission, on a beaucoup discuté de ça, et qu'en fait, on s'est dit que la violence, c'était pas... Enfin, il n'y avait pas une violence, il y a plein de formes de violence possibles. Ça peut être des émotions, ça peut être des violences entre personnes, ça peut être... des violences institutionnelles, et je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt ça qu'on va aborder avec la question de l'école. Ça peut être le système économique qui est violent, la question de la violence sociale, politique, et puis dans le contexte aujourd'hui, ben, on parle de guerre et de terrorisme, donc là je pense qu'aujourd'hui on va se recentrer sur la question de l'éducation, mais c'est vrai que définir la violence c'est compliqué, et en fait... Il y a des violences qu'il faut combattre, et puis il y a parfois aussi peut-être une question qu'on pourra aborder, des violences qui sont légitimes. Voilà, donc...
Oui, moi je voudrais continuer là-dessus, en fait, hein, la violence légitime, la violence de qui, sur qui. Voilà, il y a ceux qui, enfin, finalement, ont le pouvoir et disent rejeter cette violence. Mais la violence, est-ce que c'est quoi, la colère de l'autre qui rejette un système ou qui peut servir à se défendre? C'est vrai qu'on parle énormément de violence, mais finalement, l'institution, est-ce que c'est pas aussi un endroit où on en fabrique? Et puis, voilà, est-ce que la violence de l'institution, est-ce qu'elle n'est pas légitimée justement par cette institution elle-même, la violence en tant que pouvoir, hein, de pouvoir décider de décider de qui peut s'exprimer, de qui doit se taire. Voilà, donc voilà, on en parlera aussi, mais finalement l'école c'est quand même aussi la fabrique de la soumission, donc
c'est une violence.
C'est une violence aussi.
Oui, après il y a aussi l'idée de répétition dans la violence. À l'école, les élèves subissent ou pas. Justement, par rapport à ce renvoi de la violence aussi, qui est là, pour le coup, parfois légitime. Mais les élèves subissent des insultes répétées, des stigmatisations répétées, et donc, du coup, des dominations de l'autre répétées. Et il y a plusieurs études. Alors, quand je dis plusieurs, c'est relatif, parce que finalement, la violence scolaire... Elle est étudiée souvent par le biais beaucoup de violences physiques, verbales et sexuelles, mais la violence symbolique, elle n'est pas étudiée, elle est très peu étudiée, et pourtant elle existe, et la domination masculine dans l'école, elle existe, et par plusieurs biais. Et justement, dans le cadre des violences faites aux femmes et faites aux filles, mais on le verra aussi après, parce que elle existe entre élèves, donc là, entre filles, enfin, sur les filles plutôt, mais elle existe aussi entre adultes, donc sur les femmes enseignantes, et elle est présente, et c'est tous les jours, et c'est répété tous les jours.
Oui, moi j'ai envie de dire que la violence, ce qu'on peut peut-être appeler violence, c'est la partie la plus visible et celle qui est considérée comme inacceptable de la domination. Finalement, les élèves acceptent d'être dominés tous les jours à l'école, d'être réduits au silence, d'être contraints, etc. Mais ce qu'ils exercent, c'est pas toujours très tranquille et c'est pas en dehors des rapports de pouvoir, des petites humiliations, etc. Et moi, j'ai l'impression que la violence, elle prend son terreau sur effectivement la répétition des. Ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi sur les petites blagues. Mais enfin, on le vit ça, hein, nous, les petites blagues, les petites vexations au quotidien, la non reconnaissance. L'ignorance, l'indifférence, des tout petits mépris comme ça là, et ces formes banalisées là, on les appellera pas violence, hein. On les intériorise comme étant normales. Et j'ai l'impression que cette partie invisible là, elle est terrible en fait. Et ouais. Je trouve que c'est intéressant de s'interroger davantage sur le paquet, on va dire, que sur la partie simplement émergée du système, parce qu'on va avoir tendance à stigmatiser les réactions les plus, on va dire, ouvertes ou les plus visibles.
Finalement, la violence, elle peut être très insidieuse.
Ouais.
Et c'est peut-être celle qui, je ne sais pas si c'est celle qui fait le plus mal, mais en tout cas, c'est celle sur laquelle on a le plus de mal à agir, parce qu'elle n'est pas visible, effectivement.
Ouais, et qu'on a du mal à l'identifier.
Voilà, qu'on a du mal à identifier, et puis, voilà, qui n'est pas forcément reconnue. Alors, du coup, on a parlé de plusieurs choses. On va peut-être commencer par la violence, ou les violences entre élèves. En fait, l'idée, ça va être un petit peu de parler de nos constats, hein, à tous les niveaux dans l'éducation.
Alors, on devait commencer avec un petit montage. Quelques difficultés techniques font qu'on ne peut pas passer l'enregistrement de 4 élèves filles de lycée qui ont témoigné. Et je vais essayer de raconter un peu ce qu'elles disaient. Donc, elles racontaient que ce qu'elles identifiaient le plus en termes de violences exercées sur des filles, c'est soit des violences de groupe, c'est-à-dire quand un groupe se retourne entièrement contre une personne, une classe entière va se mettre à stigmatiser une personne, une fille, pour des raisons diverses, ou bien les petites remarques, elle parlait de la rumeur, de choses qui se colportent sur une fille et qui apparaissent aussi sur les réseaux sociaux, par exemple. Elle parlait des remarques que des garçons peuvent faire sur des tenues, mais qui peuvent être aussi exercées par des filles entre elles, sur l'apparence physique, sur le fait d'être à la mode ou pas, sur le fait de porter telle ou telle tenue et notamment d'être assez vite insultée de pute ou de salope. Quand je leur ai demandé si elles identifiaient d'autres formes de violence qui pouvaient être exercées à l'encontre des filles ou de femmes à l'intérieur d'un établissement scolaire, elles ont eu un peu du mal à voir. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même, c'est pas évident quoi. Quand on parle de violence faite aux filles ou aux jeunes filles, ben en fait, ce n'est pas les violences institutionnelles qu'on voit. Et elles m'ont même cité un contre-exemple. Elles m'ont parlé d'une classe qui se retournait contre une prof entière. Donc, comment une classe pouvait mettre à mal une prof et lui dénier toute son autorité. Voilà. Je leur ai ensuite demandé si elle voyait des raisons au fait qu'il y ait des garçons qui se permettent d'avoir des réflexions agressives ou dévalorisantes ou désobligeantes à leur égard. Et elles ont répondu parce qu'ils sont en manque, parce qu'ils imaginent que les filles sont faibles. Et puis parce que les garçons sont immatures à 17 ans et donc ils ne savent pas quelles sont les conséquences de ce qu'ils disent et que les conséquences peuvent être très graves, qu'elles peuvent amener à quelqu'un à aller très mal dans sa vie, mais que les garçons n'ont pas conscience, ou qu'en tout cas les agresseurs, entre guillemets, hein, parce que ça peut être des toutes petites choses. Et en fait, elles ont essentiellement parlé de petites choses. Il y en a une qui venait de vivre un truc où elle s'était fait insulter. Mais une petite remarque, hein, c'est même pas une grosse insulte. Elles ont surtout parlé de ça. Et elles ont dit que, là, les garçons saisissent. Quand ils font ça, ils saisissent pas l'impact que ça a. Et la dernière question que je leur posais, c'était comment réagir à ça? Comment est-ce qu'elles réagissent? Est-ce qu'elles voient des manières de faire? Et il y en a qui ont dit ignorer, pas répondre, pas entrer dans le conflit, sinon ça va donner davantage de pouvoir à la personne qui a commencé les insultes ou les remarques désobligeantes. Il y en a une autre qui a dit non, moi je réagis, je me laisse pas faire, je rappelle qu'il faut me respecter, et ça marche quelquefois. Et puis ensuite, la même a dit qu'elle avait été, qu'elle demandait elle qu'il y ait des sanctions qui soient prises, qu'il fallait punir. Voilà, mais il y avait un peu plusieurs discours à la fois, parce qu'il y avait à la fois faire une espèce de constat que c'est pas parce que les adultes vont faire la morale à des gars qui exercent des pressions régulières que ça va marcher, que ça échappe aux adultes, que même la continuité des choses échappe aux adultes et que ça peut continuer sans qu'ils s'en aperçoivent, parce que c'est plein de petites choses qui se suivent, plein de petits actes ou de petites paroles blessantes, et que les adultes n'ont pas souvent conscience, n'ont pas beaucoup de poids. Ça ne suffit pas du tout de prendre la mesure et de faire la morale, et que les garçons, pour qu'ils en prennent conscience, il faudrait d'autres actes. On ne sait pas trop lesquels. Ah, et je pense, je reviens en arrière, sur les violences exercées par l'institution sur elles, si elles ont quand même parlé de la boule au ventre avant d'entrer en classe, dans certains cours. Voilà, donc elles ont quand même mentionné un petit truc.
Est-ce qu'elles ont parlé de la question de, par rapport à l'institution, sur la question des tenues ?
Non.
Les entrées au portail où on
non.
te fait enlever... Est-ce que tu as sur la tête ou comment tu es habillée, voilà. Ça, non ?
Non, elles n'en ont pas parlé. Elles n'en ont pas parlé. Mais peut-être avant de passer à la suite, je voulais te dire, je voudrais juste remercier peut-être Farah, Rachel, Sarah et Solène qui écoutent peut-être cette émission, et leur dire que je suis désolée qu'on n'ait pas leur montage, mais on le mettra en ligne.
Oui, moi j'ai une question aussi. Est-ce qu'elles ont parlé de comment elles pouvaient éventuellement se défendre ensemble, à plusieurs ? Non pas forcément pour aller se battre, mais peut-être de d'attitude qu'elles pouvaient avoir, de solidarité.
Non, là, elles l'ont pas mentionné. Et pourtant, l'an dernier, moi, j'avais vu une classe se défendre collectivement face à un prof sur des attitudes qu'elles avaient identifiées comme sexistes. Et sur juste ce qu'elles avaient réussi à faire, c'était d'abord... nommer ensemble ce qui leur arrivait, s'apercevoir qu'en fait elles étaient plusieurs à se dire mais en fait il nous fait des blagues sexistes, il nous approche trop, il nous touche, elles avaient identifié qu'il y avait un problème collectif de ce prof avec les élèves, les filles. Et ensuite, juste après ce moment-là, donc qui s'est passé pendant un atelier d'autodéfense, elles avaient réagi toutes ensemble, elles avaient complètement stoppé la manœuvre, mais juste simplement en s'arrêtant, en le regardant, qu'il s'est permis en classe une petite blague à la noix, elles ont réagi toutes en s'arrêtant, en le regardant méchamment, et ça a été fini, en fait. Donc c'est intéressant sur quand même la force collective qui peut émerger quand on a pris conscience des choses.
Bah oui.
Tout à fait.
Il faut peut-être dire, l'atelier d'autodéfense, en fait, c'était l'association Faire Face qui est venue intervenir au lycée. Et c'est vrai que ça a déclenché des prises de conscience chez les filles qui en ont bénéficié.
Mais après, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu as raconté, c'est apparemment cette prise de conscience collective, donc elle a eu lieu suite à l'atelier Faire Face, donc ça veut dire que ça leur a donné la force de le faire. Mais juste avant, t'as quand même dit qu'elle intériorisait, que du coup elle ne réagissait pas, parce que c'était aussi faire monter la sauce en face, et que finalement leur manière à elle de se protéger, c'était de ne pas réagir et de ne rien dire. Alors que vraisemblablement, ça ne marche pas, puisque ça continue. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à crever, il y a quelque chose à creuser, le lapsus. Il y a quelque chose à creuser dans le collectif, justement.
Tout à fait. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, sur le fait que les garçons n'auraient pas conscience des conséquences de leurs actes, de leurs paroles. Voilà, pour les plus petits, on ne parle pas forcément encore de violence sexiste. Pourtant, les stéréotypes, ils existent déjà. Ils sont plus ou moins bien présents. Et on va voir comment on peut travailler là-dessus. Mais je pense qu'une piste, c'est commencer dès le plus jeune âge à travailler là-dessus, sur les conséquences de ces paroles et de ces actes, et de comment les gestes et même les mots peuvent faire mal, et que ce n'est pas anodin. Et voilà, on va voir après quelle est la place, la position des adultes, comment ils réagissent. Mais je crois que voilà, on peut, dès le plus jeune âge, commencer à agir.
Oui, et puis c'est vrai que, donc là, tu... C'est au lycée, dans les écoles primaires, donc aussi bien élémentaires que maternelles, il y a aussi les élèves, inconsciemment, hein, les petits garçons, ils prennent la place au centre, et les filles, elles sont repoussées dans les coins, donc il y a aussi toute une occupation de l'espace scolaire qui est pour le coup hyper intéressante à étudier et renverser les espaces quoi, en l'occurrence. Et ça passe aussi par la prise en charge collective de ces espaces-là, justement. Où les rôles aussi sociaux qui sont déjà préétablis. Enfin, nous, à l'élémentaire, c'est clair que qui est-ce qui joue au foot, c'est les garçons, c'est pas les filles. Hein. Et il y en a très, très peu. Il y a aussi bon, ça, on l'a déjà dit dans la classe, mais c'est vrai que... et puis, elles s'autorisent pas, quoi. C'est fou de voir comme une fille va pas s'autoriser à dire les choses, à prendre la place. Et si on leur apprend pas...
Tout à fait. Moi, je vois, là encore, vraiment dans les premières années, et puis l'école n'aide vraiment pas à ça, puisqu'on a parlé de la fabrique de la soumission. On n'apprend pas aux enfants à dire non. Au contraire, on leur apprend à être bien dociles, notamment les filles. On s'appuie quand même pas mal là-dessus. Une des premières choses à faire, c'est d'apprendre aux enfants à dire non, à savoir poser des limites, à faire respecter leur propre corps, leur espace. Et bon, c'est des choses qui se font finalement, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire, il faut d'abord en avoir conscience, il faut que les enseignants en aient conscience et qu'ils aient une volonté d'agir là-dessus. Mais ça va effectivement à l'encontre de ce qu'on construit quand même en général à l'école, hein, qui est quand même plutôt pour l'obéissance et la soumission.
Oui, là, ça va être difficile de parler que des élèves sans parler de ce que l'institution continue de fabriquer, finalement. Hein. Mais sur les rapports entre élèves, moi, j'observe quand même un truc que je vois pas mal au lycée, c'est les jeux sur le corps entre filles et garçons et un peu comment les garçons, très, très facilement, deviennent envahissants sur le corps des filles. Et effectivement, comment les filles, elles acceptent cette donne-là. Parce que on voit des bras qui entourent le cou, on voit et je t'attrape, mais c'est des manières de se lier, hein, c'est pas forcément, c'est pas en soi pas violent, hein, mais moi quand je le vois, ça me choque toujours. C'est on voit rarement une fille qui est en train d'étrangler un garçon, quoi, pour jouer. Et en fait, l'inverse est hyper régulier. Et je me dis, bon voilà, il rentre en contact, mais c'est quand même un drôle de contact. Hein, c'est très j'impose, le garçon impose son corps aux filles. Bon, c'est des généralités à partir de quelques petites choses observées, et ça n'a aucune valeur scientifique, mais je trouve qu'il y a effectivement de toute façon sûrement un continuum entre la façon de se comporter dans l'espace et dans le rapport à l'autre, de la petite classe aux grands et aux adultes que nous sommes.
Ben, je crois, enfin moi j'ai effectivement cette façon d'entrer en contact, elle existe, hein, chez les petits. Moi, j'ai l'impression que c'est petit à petit, c'est les filles qui intègrent que ça ne se fait pas et que les garçons continuent à le faire. Parce que bon, des filles qui étranglent des garçons, je vous rassure, ça arrive encore chez les petits de temps en temps. Mais...
Ah ben, bah, elles voilà. Font plus au lycée.
Voilà.
Non, elles font plus.
C'est parce que quand elles sont petites, elles n'ont pas encore tout compris.
Les règles du jeu, intégré, voilà. Comment ça marche.
Mais heureusement, les adultes sont là pour leur expliquer, puisque donc maintenant on va peut-être parler des violences, des rapports de domination entre élèves et adultes. Hein. Voilà, toi tu as parlé d'un prof qui était clairement sexiste, donc voilà, il y a aussi des violences qui sont exercées des adultes vers les enfants.
Ouais, alors je pense qu'on en avait déjà aussi parlé dans une autre émission qu'on avait faite sur les questions de mixité, de classe par exemple, qui sont hyper genrées en fonction des garçons et des filles, et très très vite déviant vers l'idée de bêtise, de faiblesse, d'ineptie, d'indigence chez les filles, alors que les garçons, bon, ils travaillent pas quoi. Ils travaillent pas, ils sont un peu branleurs, mais bon, s'ils s'y mettaient, ça irait bien. Les filles, si elles n'y arrivent pas, c'est quand même qu'elles sont pas malines, en fait. voir bon, vraiment avec des moments où c'était juste incroyable la dévalorisation qui était possible de faire. Voilà. Après, je pense qu'il y a des choses plus institutionnelles, hein, comme la question des orientations, où on oriente beaucoup plus facilement des filles vers des filières moins valorisées, hein, et avec moins de débouchés, qui donneront des diplômes, voilà, les bacs techno, sanitaires et sociales, et ben, ils vont être difficiles à monnayer pour faire des études après, quoi.
Non, puis c'est aussi que c'est des filières où on s'occupe des autres, et c'est le rôle des filles.
Voilà, en plus, ouais.
C'est très, très genré, là aussi.
L'aide à la personne, ouais. Ouais.
Effectivement, hein, on l'a dû, même le ministère le reconnaît, les enseignants sont pétris de stéréotypes, mais bon, c'est normal, hein. Enfin, pas non plus forcément se flageller, on n'est pas parfait. Après, c'est voilà, la capacité qu'on a à le reconnaître et à agir là-dessus. Mais voilà, ce qu'on peut voir aussi, c'est comment les adultes réagissent par rapport aux violences, aux gestes, aux paroles des uns sur les autres, ou sur les filles notamment. On entend quand même souvent « bon, ben, c'est pas grave ».
C'est affreux.
Voilà, enfin, c'est, moi, il me semble qu'on n'a pas décidé de ce qui est grave ou de ce qui n'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit montrer aux enfants, c'est que c'est à l'enfant lui-même de décider de ce qui est grave et ce qui n'est pas grave, et comment il peut poser ses limites. Et puis, quels outils, quelles aides on peut lui donner, notamment par le langage. Hein, pour les petits, bon, ils n'ont pas forcément un accès suffisant au langage pour aller trouver les mots de ce qu'ils ressentent et de comment ils peuvent dire non. Mais bon, c'est justement là le rôle de l'adulte, d'être à ses côtés pour... Et puis après, bon, on a parlé de paroles collectives, hein, ça s'auto-régule aussi à plusieurs.
Ouais, sur les violences exercées par l'école sur les jeunes filles, moi j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, Domi, sur l'application l'application de la loi sur les signes religieux. Elle s'exerce que contre les filles, hein, en fait, sur les tenues des filles musulmanes qui subissent à la fois racisme et sexisme, c'est-à-dire qu'on flique leur apparence. Donc il a fallu exiger qu'elles enlèvent leur foulard à l'entrée de l'école. Donc ça, c'est avec la loi de 2004. Donc c'est une loi mais clairement raciste, mais c'est aussi une loi sexiste, en fait. Hein. Et puis, il y a eu son extension maintenant à enlever les robes longues dans certains établissements, donc le djilbab. Et là encore, donc se mêle racisme et sexisme contre une certaine catégorie de filles qui vivent institutionnellement, légalement, une violence innommable. Voilà. Et celle-là, elle est extrêmement invisibilisée. De violence
et complètement
légitime. Voilà.
Mais c'est vrai qu'en plus, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, comment on essaie d'avoir l'institution, entre autres, du pouvoir sur le corps des femmes, de leur dire comment elles doivent s'habiller ou pas s'habiller. Les jupes, elles sont trop courtes, les jupes, elles sont trop longues. Et bon, voilà. Sauf que là, il y a en plus un biais qui est raciste.
Voilà.
D'autres choses, mais... On avance, mais bon, on a parlé aussi, alors peut-être, des violences entre des adultes vers les élèves. Il n'y a peut-être pas que ça, parce que dans un établissement, ben, il y a beaucoup de personnel, beaucoup d'adultes qui n'ont pas le même statut, donc certainement pas les mêmes rapports. On peut peut-être donner quelques chiffres pour commencer.
Oui, alors pour commencer, donc là, je m'inspire d'un document qui a été publié suite au stage fédéral du syndicat Sud, un syndicat qui portait sur féminisme, antisexisme et questions de genre. Et donc, il y a un certain nombre de constats qui ont été faits sur ce qui existe en termes d'inégalités hétérosexistes au sein de l'éducation nationale. Donc la première constatation, c'est qu'il y a des divisions sexuelles du travail au sein de l'éducation nationale. Par exemple, il y a des catégories entre les catégories de personnel, les agents d'entretien et l'administratif sont essentiellement des femmes. Et les autres métiers liés aux soins sont hyper féminisés, infirmières, conseillères d'orientation, voilà.
Assistante sociale,
voilà. Il y a une division aussi au niveau du niveau d'enseignement. Plus le public auquel on s'adresse est jeune, plus ce sont des femmes qui s'en occupent. Plus il est âgé, plus ce sont des hommes. Bizarre. De disciplines, hein, c'est-à-dire que les disciplines les plus valorisées, ce sont davantage dans ce métier d'enseignant qui est largement féminin. Ben, dans les disciplines les plus valorisées, ce sont plutôt des hommes, proportionnellement, et dans les disciplines moins valorisées, comme les matières littéraires ou les matières techniques, ce sont plutôt des femmes. Voilà, et ensuite il y a aussi les questions de position hiérarchique, donc où je rappelle que la majorité des personnels sont des femmes, mais en fait les positions hiérarchiques sont essentiellement occupées par des hommes. Alors quelques chiffres. Voilà, il y a 30% de femmes qui occupent des chaires supérieures à l'université, alors qu'elles sont 80% dans le premier degré et 57% dans le second degré. Autre chose sur les places chez les chefs, il y a dans le second degré 25% de chefs d'établissement, alors qu'il y a quand même 57% de personnel féminin, et 40% de femmes chez les inspecteurs. Pour un corps féminisé à 80% dans le premier degré, il y a seulement 55% de femmes. Donc il y a une qui sont inspecteurs. Donc il y a vraiment une discordance entre la proportion de femmes exerçant et les positions de chef, quoi. Enfin bon, on peut rappeler quand même, c'est qu'on cherche pas spécialement à ce que les femmes deviennent chefs, hein, qu'on est contre les chefs. Hein. Bon.
Ou qu'il y ait des chefs tout court. Hein.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis alors, il y a autre chose qui est quand même intéressant, c'est l'idée de cooptation masculine. Il y a un concours de professeurs des écoles qui a été étudié par un chercheur, et donc ce qu'il regarde, c'est que les femmes sont 4 fois plus nombreuses à se présenter que les hommes à l'écrit. Quand donc le jury connaît pas le genre des candidats, il y a un écart en général, et il y a un écart de 7% entre hommes. En faveur des femmes. À l'oral, ça tombe à 1,5%. Voilà. Et donc une des hypothèses là des gens qui ont fait ce stage fédéral, c'est de dire que ce sont ce qui est vu à l'oral, à savoir la façon de parler masculine, etc., elle va être valorisée davantage.
Il y a peut-être intervenir là-dessus. Peut-être aussi que, comme on dit, il faudrait quand même beaucoup plus d'hommes dans ce métier parce que justement il y a des problèmes d'autorité. Est-ce que c'est pas aussi pour dire il faut en faire passer pour une fois qu'il y en a qui se présentent, bah, il vaut mieux les aider à passer.
Voilà, et donc il y a sans doute, comme chez les concours d'éducateurs spécialisés, il y a sans doute une préférence donnée aux hommes parce que reste ce stéréotype très fort que l'homme incarne une autorité bien plus efficace et bien plus naturelle que les femmes qui, les pauvres, galèrent.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence dans la prise de parole à l'oral entre les hommes et les femmes, puisque dès l'école, les garçons, on l'a dit tout à l'heure, hein, on leur laisse plus la parole, leur parole est beaucoup plus valorisée que celle des filles, et moi je pense que quand on est adulte, c'est quelque chose qu'on continue à traîner, y compris dans les situations d'examen, voilà.
Bah oui, un entraînement majeur, ouais. Ouais, un entraînement que les hommes ont plus d'entraînement à prendre la parole et du coup peut-être développent des compétences que les femmes développent moins, mais qui sont aussi reçues de façon plus positive que les prises de parole des femmes. Bon, ça on l'expérimente nous, hein.
Même dans le milieu syndical, hein.
Ouais. Alors bah oui, il y a reproduction totale de ça. Enfin, je sais pas, hein, on en a parlé en préparant cette émission, mais le fait qu'on ose moins prendre la parole, nous femmes, quand il y a des hommes, ou que des hommes se permettent de nous squeezer hyper facilement, c'est quand même des situations qu'on vit régulièrement, quoi.
Ah, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est vrai que... on parlait de ces petites violences répétées. Ah, et effectivement, le fait de se faire couper la parole, alors qu'on est déjà, ils ne sont pas très nombreux, mais bon, voilà, moi, je connais, et c'est effectivement très, très désagréable. Et c'est comment, du coup, même quand on essaie de parler ensemble, quelles sont les solutions qu'on va retenir, qui va être le plus écouté et...
Oui, parce que finalement, on s'auto-censure, on l'a bien compris. On se dévalue, c'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est pas forcément intéressant, par exemple, donc on va pas le dire. Et puis, en plus, une femme qui ouvre la bouche, qui se défend et qui dit ce qu'elle pense face à ses collègues hommes ou dans une assemblée de mecs ou quoi, c'est une chieuse, parfois, ou alors une grande gueule, ce qui est tout aussi péjoratif.
C'est pas très féminin.
Non.
Et pourtant, on dit, un des stéréotypes qui est véhiculé, et notamment même dans les livres pour enfants, c'est que les femmes sont bavardes. Ce qui est quand même une injonction à se taire.
Ouais. Oui. Hein? Ouais, c'est vrai.
Parce qu'elles parlent pour rien dire. Non, voilà.
Je voulais juste rajouter trois remarques là qui issues aussi du rapport de, enfin du compte rendu des ateliers qui ont été faits donc dans le stage sur l'hétérosexisme et les inégalités de genre dans l'éducation nationale à Sud. Il y a un constat d'inégalité salariale, bon comme partout finalement, mais ça se reproduit aussi dans la fonction publique et dans l'éducation nationale. Hein. Grosso modo, il y a un écart de 13%, quand même 4 000 euros de moins par an entre hommes et femmes.
Peut-être juste préciser, c'est parce que c'est normalement on croirait que bah, voilà, statut égal, enfin échelon égal,
non,
voilà,
c'est global.
Mais c'est parce que effectivement, comme les hommes sont plus dans les positions de pouvoir et donc mieux payés, etc.
Il y a ça, mais il y a aussi le temps partiel. En fait. Et sur le temps partiel, sur la question de l'aménagement du temps, etc., y a une autre marque qui est avancée qui est intéressante, c'est de dire que l'enseignement est perçu comme pratique pour les femmes parce qu'on ne travaille pas beaucoup ou les horaires sont souples. Bon, hein, tout ça, c'est très discutable, évidemment. Il s'avère qu'il y a quand même 40 heures de travail pour un enseignant pour préparer sa classe. Hein. Mais du coup les femmes, ça va être plus compatible avec le travail domestique, ce qui permet de charger la mule aux deux endroits. Donc, l'enseignement, c'est quand même pas un atout génial, finalement, un boulot génial en termes d'émancipation des femmes, hein, en tout cas à travers le travail. Voilà, et il y a une autre remarque qui est sur le fait qu'existe à l'intérieur de l'éducation nationale des discriminations homophobes sur lesquelles il n'y a pas d'enquête, pas d'action. Et ça, c'est complètement invisibilisé. Et pourtant, on sait que, par exemple, des enfants de parents homosexuels ne vont pas se reconnaître dans les modèles qui seront donnés à l'éducation nationale. Ouais. Que les enfants qui eux-mêmes vont s'identifier comme homosexuels n'ont pas de modèle, voire vont être extrêmement stigmatisés, insultés si jamais ils sont repérés. Et que ça peut générer une perte de sociabilité et puis des soucis vraiment profonds quoi, chez les enfants. Voilà, sur les constats de Sud.
Oui, moi je voudrais revenir sur cette autorité soi-disant incarnée par les femmes, par les hommes, pardon, par les femmes aussi. En fait, oui, j'imagine que vous êtes toutes un jour retrouvées dans la situation suivante où... face à un élève qui peut poser problème, que vous allez réprimander, d'avoir un collègue homme qui va intervenir, soi-disant pour vous aider, et finalement cette situation extrêmement désagréable qui fait qu'il il minimise votre autorité en renforçant la sienne. Voilà, mais peut-être que enfin, ça, c'est des situations qu'on peut vivre, mais là, en tant que collègue, après, il y a aussi les rapports avec les autres personnels de l'école, de l'établissement, des choses à dire.
Ouais, mais sur le premier exemple que tu cites, là, moi, j'ai mis du temps, et c'est avec vous que je l'ai identifié, en fait, à voir que je me suis déjà retrouvée dans une situation où un élève s'agite un peu bruyamment dans un couloir. C'est un élève de la classe que je vais prendre. Et là, je m'en occupe. Hein, la classe. Je suis en train de la faire rentrer. Et donc, effectivement, il y en a un petit là qui s'agite, qui fait du bruit, qui braille et tout ça. Je crois que j'ai déjà fait une remarque. Et là, mon grand collègue costaud, avec une grosse voix, sort de sa salle et punit le gamin. Me regarder sans m'adresser la parole, le punit, lui colle des lignes, ce que moi je ne fais jamais. Et moi j'en suis restée les bras ballants, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'étais complètement décontenancée. Et je me dis, mais quand même quoi, il m'a complètement squeezé, ça veut dire qu'il a estimé que je ne gérais pas la situation. Pas comme il l'aurait fait, ouais, j'en sais rien.
Il a agi comme si tu n'étais pas là.
Exactement, ouais, exactement. Bon, et le truc de la non-personne, ça existe aussi entre personnels de statuts différents, et notamment vis-à-vis des femmes de ménage dans les établissements scolaires, moi je trouve.
Ça, c'est des personnels invisibles pour moi. Moi, je vois au lycée, elles font le ménage dans la journée, hein, quand parfois il y a les élèves qui sont là, il y a des personnels... d'autres, enfin des enseignants qui les croisent, et c'est, enfin moi très souvent je constate que c'est des femmes à qui on dit pas bonjour, et je trouve ça alors là pour le coup très violent, parce que voilà, c'est comme si elles n'existaient pas, elles nettoient, elles sont là, elles travaillent à côté de nous, et en fait on les voit pas,
on les reconnaît pas.
On les reconnaît pas.
Bien. Eh bien, je ne sais pas si on a fait le tour de toutes ces violences à tous les niveaux. Peut-être que quand même on va finir par une note un peu plus optimiste, parce que même si le ministère n'est pas forcément là pour nous aider, on a quand même des solutions, des idées, des pistes de réflexion sur comment on fait changer les choses.
Alors, comment faire ?
Ne plus se taire.
Ouais, déjà, commencer par plus taire, hein, et essayer de mettre en place des moments formels de discussion où justement ces rapports de domination et de pouvoir sont discutés. Parce que déjà, en discuter, c'est mettre le doigt dessus, c'est les faire exister et montrer que oui, ils existent. Et de cette manière, justement, plus on en parle, plus on essaye de faire en sorte de les atténuer, ces relations de pouvoir et de domination, et plus on essaiera de tendre vers quelque chose de plus aplani, mais ça aussi, ça rejoint quand même la formation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire n'importe comment non plus.
Ouais, moi j'aimerais dire, c'est s'autoriser. C'est-à-dire que s'autoriser à dire des choses, à ne pas laisser faire, à ne pas laisser passer une parole, notamment si un enseignant a une façon de réagir par rapport à un enfant, eh ben on peut dire autre chose, reformuler différemment ou par rapport à d'autres personnes, d'autres personnels. Voilà, ne pas se taire.
Moi, j'aimerais bien parler de la valorisation de l'écoute. Parce que sur la question de la prise de parole, on est tout le temps en train de dire il faut que les filles prennent la parole, il faut répartir la parole, etc. Mais moi, j'ai aussi l'impression que les grandes gueules, elles doivent apprendre à écouter. Mmh. Et d'une manière générale, je trouve qu'on ne travaille pas assez l'écoute. Je ne sais pas, mais moi, je pense à nos réunions d'enseignants. C'est l'enfer total, en fait. Tout le monde se braille dessus, tout le monde se marche dessus. Et après, je me dis, bon, bah, dans la classe... apprendre aux élèves à écouter, c'est quand même une sacrée gageure. En fait, les adultes, on ne le fait pas.
Commencer par nous.
Ouais, voilà. Oui. Et sur le commencer par nous, j'aimerais bien aussi qu'on ne renvoie pas à l'extérieur de l'école des choses dont on peut s'occuper. C'est-à-dire, je crois qu'il y a aussi une tendance à dire « Ah, mais il faut corriger les parents, en fait. » Presque quelque chose comme ça. Et ça, moi, ça me gêne beaucoup. Comme si le sexisme, ça venait de l'extérieur de l'école. Et je suis très gênée par ce que tu mentionnais tout à l'heure qui existe dans le guide sur les violences faites aux filles, là. Sur les mariages forcés, les mutilations génitales. Honnêtement, c'est... De quoi on parle là ? Ça se passe à l'école, ça ? Enfin, j'ai l'impression qu'on importe des sujets complètement exotiques, fantasmés, bon, avec un arrière-plan, je pense, largement raciste, à l'école, alors qu'on a vraiment pleinement à s'occuper, quoi. Pleinement à s'occuper, à défaire les situations de domination qu'on exerce et auxquelles on participe, parce que là, nous, on est des enseignantes, on a quand même un statut de domination vis-à-vis des élèves. Hein. On subit notre hiérarchie, etc., mais nous, on exerce ça. Et puis après, peut-être aussi se donner le droit d'être vigilante sur ce que font les gamins devant nos yeux, quoi. Voilà. Ce que je trouve toujours un peu difficile, d'ailleurs. Je me dis, c'est difficile quand une fille appelle pas à l'aide, je trouve difficile d'intervenir à sa place, mais voilà.
Sinon, moi, je pense à un outil, là. C'est vrai qu'on n'en a pas discuté dans la préparation, mais ça m'est venu dans la discussion. C'est la question de la littérature de jeunesse ou la littérature pour les enfants. Je pense qu'elle mérite d'être mieux connue, peut-être, et valorisée, parce que c'est souvent des auteurs femmes, des illustrateurs, des illustratrices qui abordent ces sujets difficiles de façon parfois très, très directe, mais qui conviennent, enfin, je trouve qu'ils sont adaptés aux enfants et aux adolescents. Et c'est aussi une littérature qui est très menacée par. Moi, je me rappelle de Jean-François Copé qui avait brandi un livre qui l'avait mis à l'index à la télévision. Et il y a aussi des associations de cathos, intégristes, etc., qui dénoncent ce qu'on montre aux enfants à l'école. Et je pense que ça passe beaucoup par le livre. Et c'est un outil qu'il faut qu'on utilise aussi.
Moi, je voulais aussi rajouter le fait de sortir du discours victimisant. On l'a dit en préparant aussi, hein. Être femme, c'est pas être victime. Et parce que c'est quand même ça aussi, ça participe aussi au fait d'intérioriser ça. C'est-à-dire que je suis une femme, donc quelque part je suis victime. Ben non, il faut aussi arriver à sortir de ça. Et même si donc là, par rapport à l'éducation nationale, s'il y a une volonté qui est affichée via tous les descriptifs et les préconisations qu'on a pu décrire succinctement tout à l'heure, donc promouvoir l'égalité filles-garçons, donc c'est déjà admettre qu'il n'y en a pas et qu'il va falloir s'y atteler. Sur le terrain, les enseignants, ils sont isolés. Et il n'y aura pas de changement à l'école. Enfin, il n'y aura pas une transformation de l'école sans passer par une transformation de la société, puisque les murs de l'école sont poreux. Ça, voilà quoi. Ce qui se passe à l'extérieur se retrouve à l'intérieur, quoi. Hein. L'école est un espace social aussi, hein, avec tout ce qu'il induit. Et l'école, finalement, elle apprend. Malgré elle, insidieuse, enfin consciemment ou inconsciemment, elle apprend aux filles à se taire, à rester en périphérie, comme dans l'espace public, on l'a dit tout à l'heure, à être docile, à faire passer le garçon avant elle, parce que justement, elles se plaignent pas, elles n'osent pas dire, donc ça veut dire que elles font passer le mec, enfin elles font passer le garçon qui leur a fait subir, enfin des violences ou autres, et ben quelque part avant elle, puisque du coup, il y a pas de retour sur la violence exercée par les garçons, et finalement, voilà, la domination masculine existe aussi à l'école. Hein.
Ben voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer Radiohead.
Oui, on a fait à peu près le tour, on espère, de la question. Peut-être on a une date pour la prochaine émission ? Non, pas encore, donc on vous tiendra au courant.
Voilà, et on se quitte avec Mercedes Sosa.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Rasgados, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero palmar estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Calle regada, María, olía tu pueblo, a pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente.